s'agit d'un appel un peu exceptionnel. Nous n'allons pas voir la liste des participants. Nous vous demandons de donner votre nom avant de commencer et de parler lentement pour les interprètes. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Olivier. Merci beaucoup, Gisela. C'est Olivier Crépin-Leblanc qui prend la parole. Nous allons donner la parole à Bruce Tonkin, le vice-président du Conseil d'ICANN. Et Steve Crocker est aussi là. Donc, bienvenue, messieurs. Et nous allons avoir une discussion aujourd'hui sur les rôles des membres du Conseil au sein d'ICANN, puisque nous allons sélectionner un membre du board qui va représenter At Large. Maintenant, est-ce que je dois donner la parole à Steve Crocker ou à Bruce Tonkin? Si vous voulez, Bruce, prenez la parole. On va commencer comme ça. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que vous m'entendez bien, dit Bruce Tonkin? C'est parfait. Allez-y. Bien. Le comité du conseil a été prié de fournir quelques perspectives concernant le futur des membres du Conseil et leur rôle au sein de la communauté. Je pense que d'abord, je voudrais vous dire que le Conseil cherche des directeurs qui appliquent, qui respectent les statuts. On cherche une objectivité, une intelligence chez ces personnes, bien sûr. On doit avoir des personnes qui connaissent la mentalité du conseil, des personnes qui connaissent l'opération du non-domaine, des bureaux d'enregistrement, des registres, du CCTLD et ce genre de choses, et les standards, les protocoles d'Internet aussi, bien sûr. Mais surtout, nous n'attendons pas que tous les membres du conseil aient une vision technique des choses, mais nous attendons qu'ils aient une certaine familiarité avec ces domaines, ou un de ces domaines en tout cas. Et il y a des compensations quand on est membre du conseil. C'est une certaine somme de dollars par an. Et la langue anglaise est la langue de base. Hein, donc il faut que cette personne maîtrise bien l'anglais. Et outre donc les standards qui sont dans les statuts, il faut que ces personnes aient certaines compétences, mais nous cherchons aussi des personnes qui connaissent la gouvernance et du conseil et qui aient une certaine expérience dans ce domaine. Cette année, nous avons un budget de 200 000 $. Et donc, il y a une organisation qui est meilleure hein, qu'il y a quelques années. 200 millions $ hein, de budget hein, pour le conseil. C'est le budget que nous avons. Hein. Donc, nous avons une organisation qui peut donc se déployer sur différentes cultures, différents pays au sein de l'organisation. C'est une obligation. Je pense que c'est quelque chose de complexe hein, pour donc gérer tout cela dans le temps. Hein. Cette expérience peut venir de différents domaines. Ça peut être des gens qui ont eu une expérience de cadre supérieur, c'est une expérience qui est utile, bien sûr, ou une expérience dans une grande organisation internationale avec une approche internationale. C'est ça qui est important. Hein. Nous voulons que ce directeur ait certaines expériences dans des organisations internationales, en tout cas. Et les objectifs sont bien sûr différents des objectifs typiques que l'on peut avoir dans des organisations d'autres types. Il y a un bénéfice au niveau d'ICANN qui peut être obtenu. J'ai eu une certaine expérience et j'ai travaillé avec le conseil. Et je peux vous dire que le conseil est distribué sur différentes locations. Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent sur et différents thèmes. Et outre donc ces compétences concrètes qu'on demande donc à ces membres du board, on leur demande aussi la capacité de participer à un dialogue et à exprimer une opinion d'une façon qui ne soit pas vexante, essayer de contribuer avec son expérience, avec son opinion au dialogue, essayer d'écouter aussi, d'écouter et de savoir écouter les gens pour parler de son expérience aux gens, c'est important, mais il faut aussi savoir écouter les autres, c'est très important. Donc avoir des compétences d'écoute importantes aussi. Ensuite, il faut savoir se comporter, et montrer un certain respect pour les autres membres du conseil, avoir une expérience concernant les différentes cultures, savoir gérer les différentes cultures, respecter les différentes cultures. Tous les membres du board doivent respecter la culture et la personnalité de chacun. Il y a des membres dans le conseil, il y a des membres qui viennent du monde entier et chacun doit respecter la culture de l'autre, être tolérant avec les autres. Et il faut bien sûr avoir envie de travailler avec les autres, avec des gens qui viennent d'autres pays et d'autres qui ont une autre culture. Je pense que c'est tout ce que je dirais. Olivier, en termes de compétences générales, l'autre question qui est souvent posée, c'est le temps nécessaire à consacrer à ce poste, à cette fonction. Je dirais que on demande aux membres du conseil de participer activement aux activités du conseil. Oui, Steve Crocker prend la parole. Oui, je dois dire que c'est vrai. Merci, Bruce, de me donner la parole. Oui. Laissez-moi reprendre un petit peu la question du temps nécessaire, entre autres choses. En ce qui concerne l'engagement au niveau du temps, ça demande beaucoup de temps. Il y a beaucoup de matériel à lire. Il faut rester au courant en permanence. Au niveau des voyages, il y a un minimum de 3 réunions d'ICANN par an, ce qui signifie en général que l'on arrive le mercredi de la semaine précédant la réunion et que l'on reste au moins jusqu'à jeudi de la semaine suivante. Et tout dépend d'où on vient, mais ça signifie en général un jour ou 2 jours de voyage pour se rendre sur les lieux. Ensuite, on a, outre cela, 3 retraites par an. Il s'agit en général de plusieurs semaines, quelques semaines, pardon, avant la réunion d'ICANN. Et cette retraite dure 3 jours. C'est une réunion de 3 jours. Et de nouveau, il y a le temps de voyage jusqu'à cet endroit. Voilà, je dirais que c'est tout au niveau des réunions et auxquelles doivent participer les membres du conseil. Donc, on a déjà cette quantité de voyages. Ensuite, on a des engagements. Un grand nombre de travail des membres du conseil est fait au sein des comités et c'est une grande invention pour faire beaucoup de travail à l'extérieur des réunions. Et donc, on se réunit constamment à travers ces comités. Ces comités ont un rôle important. Par exemple, le comité des finances va s'occuper dans le détail du budget, du processus budgétaire. Et il y a un comité qui est encore plus, qui demande encore plus de travail. C'est celui qui essaye de comprendre le budget et le processus du budget, mais aussi qui essaye de comprendre les mécanismes généraux du budget. Et certains de ces comités demandent une certaine connaissance. Hein, quand on rentre dans ce comité, il faut apprendre rapidement, il faut lire tout le matériel, et il faut écouter ce que disent les experts et les audits. Donc, en général, le conseil est responsable de s'assurer que l'organisation avance dans la bonne direction et que les processus sont respectés et qu'il y a, bien sûr, des responsabilités spécifiques pour assurer les performances du PDG et de l'ombudsman. Mais il faut dire que nous avons deux personnes qui font un rapport, qui font un reporting direct au conseil. Les autres personnes font leur reporting au CEO ou aux équipes d'ICANN. Mais le conseil ne doit pas normalement participer aux politiques. Cela est sous la responsabilité de l'organisation, des organisations de soutien et d'ALAC, je dirais. À travers les processus multipartites ascendants, bien que le conseil soit souvent considéré comme celui qui donne la direction, qui donne ses visions. Mais je pense qu'il faut essayer de ne pas le faire. Ça ne veut pas dire que nous ne participons pas activement à ce qui se fait, essayons de comprendre. Et parfois, nous essayons de faire certaines choses pour arranger des inconvénients qui peuvent surgir, hein, sans donner une réponse, mais essayer de résoudre certaines difficultés. Donc tout cela demande un certain temps. Je dirais qu'environ les chiffres sont trop élevés. Lorsqu'on regarde les chiffres, on a peur, hein, le nombre d'heures, on a peur. Mais je dirais que il s'agirait en pratique d'un part-time, hein, d'un travail à mi-temps ou d'un travail à quart de temps, hein. Voilà. Et bon, qui demande certaines compétences, bien sûr. Bien, ce que je voudrais souligner, donc, c'est ce que Bruce a dit, c'est-à-dire que nous travaillons et nous fonctionnons au nom de notre organisation et au nom de l'Internet dans son ensemble. Nous sommes des membres du Conseil qui viennent de différentes sources et cet appel est destiné à ALAC, mais aussi aux organisations de soutien, par exemple, hein, et au comité de NOMCOM. Ce qui veut dire que, même s'il est très important que l'on ait cette représentation diversifiée, avec une représentation de chaque principal groupe, le Conseil n'est pas un Parlement et on n'attend pas les membres individuels du Conseil d'agir seulement au nom de l'organisation qu'il les a sélectionnés, qu'ils représentent. Hein. Donc leur première responsabilité est que chaque membre, peu importe d'où il vient, doivent se conduire comme un membre du Conseil en général, le Conseil en tant qu'organisation générale, et qu'aucun problème spécifique n'appartient à un membre du board du Conseil en particulier. Personne ne doit se considérer comme un représentant d'une unité constitutive en particulier. Hein. Donc, je pense que tous les membres du Conseil participent avec beaucoup de sérieux à tous les problèmes. Il y a parfois certains problèmes qui demandent plus de connaissances techniques et à ce moment-là, des personnes qui viennent de la communauté technique vont s'en occuper davantage. Pour les questions sociales, c'est la même chose. Mais je dirais que tous les membres, hein, ont une approche qui compte, qui est importante au niveau de la discussion. Et donc, une personne qui vient d'ALAC, par exemple, hein, va avoir le même rôle qu'un autre membre du Conseil. Bien, voilà. Je m'arrête ici. Je rends la parole à Olivier Crépin-Leblon. Merci beaucoup, Steve, et merci beaucoup, Bruce, pour votre introduction. Je suis Olivier Crépin-Leblon et maintenant nous allons passer à la partie suivante de notre appel qui va être la partie des questions et des réponses. Et j'invite tout le monde à poser des questions Hein? Il y a plusieurs membres du conseil qui sont ici sur cet appel que vous pouvez donc consulter et à qui vous pouvez donc demander de parler de leur expérience. Je crois que pour commencer, et j'avais une question à poser. Le leadership d'At-Large, qui était le comité exécutif, vous invite et a invité d'autres membres du conseil à leur parler jeudi matin. Et les membres individuels du conseil parleront devant At-Large, ou devant le comité d'At-Large ou devant d'autres parties du comité, devant la GNSO par exemple. Et il y aura des questions aux membres qui appartiennent à la GNSO et ou qui participent à la consultation d'At-Large. Est-ce qu'il y a des questions en ce qui concerne les guides, les prérequis pour les personnes qui participent à ce niveau-là, des questions, des recommandations que vous pourriez leur faire? J'espère que vous avez bien compris la question. Steve Crocker reprend la parole. Olivier. Il n'y a pas de restrictions qui concernent la participation générale. Il n'y a pas de restrictions que je sache, hein, au niveau du conseil pour les organisations de soutien, par exemple. Lorsque j'étais président de la GNSO, et c'est en tout cas une capacité de personne qui a droit de vote, mais en tant que personne qui contribue à participer à un groupe de travail, et il n'y a pas de restriction dans les statuts, et je pense que les membres du conseil en général ont une approche plutôt d'écoute dans ce type de situation, parce que lorsqu'ils doivent donner des conseils au conseil, il ne doit pas y avoir de restrictions. Et au niveau des connaissances et offertes. Merci beaucoup, dit Olivier Crépin-Leblon. Nous allons donner maintenant la parole à Ray Pilslax. Bien, je voudrais dire que je suis d'accord avec ce que Bruce Tonkin vient de dire. Et la question de la participation, les membres doivent être prudents parce qu'il faut être impartial, il faut voter sur des questions et qui ont été discutées. Ils doivent tirer une ligne entre participation active et écoute. Et en même temps, il faut qu'ils peuvent être considérés comme étant protagonistes ou antagonistes dans le groupe. Donc, finalement, il y a ici une ligne difficile. Hein? Il faut aussi laisser de côté les intérêts en ce qui concerne le travail au sein du conseil. Donc, en général, les membres du conseil participent. C'est bien qu'ils participent et c'est très bien aussi qu'ils sachent écouter de manière active. Merci. Merci beaucoup, Ray, dit Olivier Crépin-Leblon. Maintenant, nous redonnons la parole à Steve Crocker. Steve Crocker prend la parole. Merci. Je voudrais reprendre un petit peu ce point de l'impartialité. Tout le monde sur cet appel sait très bien que nous vivons dans un environnement dans lequel nous allons être examinés. Et mon nouveau. Et je sais que tout le monde est prêt à vous critiquer. Il y a toute une question d'éthique, de conflits d'intérêts qui sont en jeu. Et donc, je vais conseiller à toute personne qui cherche à travailler au conseil, à participer au travail du conseil, de tenir compte du fait que, quel que soit ce qu'ils disent, il faut qu'ils, et s'ils veulent conserver leur travail régulier parallèlement à ICANN, on va nous regarder, on va constamment nous observer et toutes les actions, toutes nos actions, hein, et officielles ou pas, vont être analysées, vont être et observées. Deuxième point, je pense que c'est très important, nous devons être très à l'aise dans notre propre situation et nous considérer comme des observateurs de la communauté. Il y a beaucoup de sensibilité concernant notre situation et la possibilité d'utiliser notre situation pour améliorer et notre patrimoine ou pour améliorer notre position générale, hein, et après avoir servi au sein du conseil. Donc je dirais que toutes les personnes qui ont travaillé au sein du conseil, qui sont de manière activement ou inconsciemment, des fois agissent de manière, hein, qui pourrait laisser penser qu'on utilise leur fonction, hein, dans leur pour s'attirer des bénéfices, hein, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je dirais que au niveau des membres du conseil, ce n'est pas le cas actuellement. Les apparences des fois sont dures, hein, beaucoup plus que la réalité, et donc il faut en tenir compte aussi. Merci, merci beaucoup, Steve Crocker. Olivier Crépin-Leblanc reprend la parole. Et nous avons maintenant une question. Je ne vois pas de main en l'air, donc je vais poser moi-même une question. Puisqu'il n'y a pas d'autres personnes qui veuillent poser une question. Je sais que c'est très tôt pour certaines personnes de notre communauté et très tard pour d'autres. Pour d'autres, c'est l'heure de manger. Peut-être que certaines n'ont pas pu manger. En tout cas, le problème des conflits d'intérêts au niveau des membres du conseil, ce problème, il y a eu des conflits à une époque au niveau des membres du conseil et je sais qu'il y a eu différentes étapes qui ont été, différentes mesures qui ont été prises. Je sais que les membres ne doivent pas avoir de conflit ni entre eux, ni avec, donc entre leur profession et ICANN. Mais quel est le processus par lequel la décision est prise et pour que les membres du conseil démontrent cela? Et Steve Crocker reprend la parole. Oui, le conflit d'intérêts est un thème qui entraîne une large série de choses, par exemple la création du comité de programme du nouveau GTLD, hein, les critères pour être membre de ce comité et de ne pas être en conflit en ce qui concerne la décision des GTLD, des nouveaux GTLD. Il y a d'autres décisions concernant d'autres types de conflits. Donc nous avons un principe général qui fait que on doit identifier dans chaque cas, quels sont les conflits d'intérêts qui peuvent exister, hein, pour chaque comité différent. Hein. Et donc, en fonction du problème, les membres du conseil, des fois, se récusent pour participer à certaines choses. Dans le cas du comité de programme de nouveau GTLD, il y a eu une large série d'activités, hein, qui, nous le savions, allaient réapparaître régulièrement. Et donc, plutôt que d'avoir ce problème à chaque fois, on a préféré préciser une série de mécanismes, hein, pour que tout cela soit appliqué de manière régulière. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Bruce? Oui. Mais je pense que Olivier, il n'y a pas ces choses qui seraient un membre du conseil en conflit. On a des membres du conseil qui pourraient être en conflit sur certains points. Par exemple, les nouveaux GTLD, hein, il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises dans ce domaine. Et il faut des fois défendre la situation de certaines communautés, par exemple. Et donc, il y a dans ce type de problème, si on a des GTLD individuels, hein, qui vont présenter un problème ou un GTLD qui demande un changement dans un domaine particulier pour un contrat particulier, à ce moment-là, on va analyser ce cas individuel et on va décider quel membre pourra participer ou pas à la décision concernant ce problème. On va avoir une série de membres qui pourront travailler au comité des nouveaux GTLD ou pas, en fonction donc de leur conflit d'intérêts. Un autre conflit est ce que nous appelons un conflit d'intérêts direct. En général, il s'agit d'un conflit financier, l'encouragement est à prendre une décision. Par exemple, on parle d'une compagnie particulier et un membre du board, un membre du conseil travaille pour cette compagnie. S'il y a un contrat envers une compagnie et dans laquelle un membre du conseil travaille, ce type de choses provoque bien sûr des conflits d'intérêts. Et un autre type de conflit qui peut y avoir et qui peut être un problème plus grave, est lorsque un membre du conseil a reçu ou reçoit de l'argent en échange d'une transaction. À ce moment-là, on va regarder, il peut y avoir ici un cas de perception de conflit et de problème de réputation pour ICANN. Et dans ce cas-là, dans certains cas, dans le cas des décisions concernant le nouveau GTLD, on identifie les personnes qui pourraient et donc représenter ici une possibilité de conflit. Et à ce moment-là, même si ce n'est qu'une perception de conflit, et on va recommander à ce membre de ne pas participer à ce problème. Et le troisième niveau de conflit est ce qu'on appelle le conflit de futur. Le conflit de futur est lorsque l'on sait qu'on est un membre du conseil, on veut se présenter à une compagnie pour travailler dans une compagnie en particulier, et donc en tant que membre du conseil, vous devez dire que vous allez peut-être vous présenter pour travailler dans cette compagnie, que vous êtes présenté pour travailler auprès de cette compagnie. Peut-être que vous n'y travaillez pas, mais que vous êtes présenté déjà. Hein, cela peut donner la sensation que de nouveau, vous allez essayer d'influencer certaines choses. Hein. Donc, ça peut être un conflit. C'est pas un conflit direct, c'est un conflit futur, hein, une perception de conflit. Et donc, de nouveau, il faut en parler. Hein. Donc, voilà, ce seraient les différents types de conflits qui peuvent donc avoir un impact sur votre rôle au sein du conseil.
Il semble que nous avons d'autres personnes dans la queue. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Merci. D'abord, merci de l'opportunité de me réunir avec vous. C'est une tâche très difficile de faire ce choix et d'évaluer tous les candidats. Ce n'est pas une position viable, mais elle est très importante. Je voudrais partager avec vous vraiment ce qui fonctionne par rapport au conseil merveilleux auquel je participe maintenant. Nous avons déjà parlé avec Bruce et Steve. De quel élément a été avalé par le choix? La diversité, la quantité du travail et de l'intérêt public. Sur le domaine de la diversité, c'est très important parce que cela nous permet avoir une ampleur d'opinion pour prendre la meilleure décision pour arriver au meilleur produit possible. Si vous pourriez marquer les besoins ou les demandes qui sont nécessaires, quand vous marquez la caisse, vous verrez un type d'individu, par exemple le prof. La connaissance de l'anglais, qui est très important, l'expertise technique qui nous amène à la communauté d'experts, de la communauté partout dans le monde. Si vous balancez cela et vous l'équilibrez avec toutes les autres capacités qui sont nécessaires pour les membres du conseil, cela vous amènera à faire une meilleure vision. Par rapport à la stamina, Steve a parlé du compromis du temps. Cela est très important. Il y a beaucoup de matériel à lire, à digérer et à formuler une opinion. Vous devez le faire vite et honnêtement pour avoir une opinion qui peut être un peu différente, etc. Quand vous choisissez quelqu'un qui s'engage à tout cela, travaillez avec un équilibre parce que le conseil a un groupe de personnes qui sont très actives dans la profession, dans des compagnies, des corporations ou dans la pratique du droit. D'autres qui ont la capacité pour contribuer de plus avec leur temps parce qu'ils ont déjà de l'expérience dans des carrières. C'est très important aussi. Le compromis de temps qui est nécessaire est plutôt une question de ce qu'on est prêt à donner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres responsabilités parce qu'il y a un besoin d'une amplitude des situations. Je voudrais dernièrement parler du choix de l'intérêt public. C'est une question d'équilibre aussi parce que dans le conseil, d'abord, il y a la responsabilité de faire des décisions qui sont dans l'intérêt public de l'organisation entière. Dans le cas particulier d'un représentant choisi par ALAC, il y aura des instances où la responsabilité tombera sur ce directeur pour remarquer une responsabilité de la négligé ou qui doit être remarqué par rapport à une certaine
communauté.
J'espère qu'il y ait plus de détails afin d'arriver à ce équilibre que nous avons obtenu dans ce conseil. Merci, Charles. Merci de votre honnête opinion sur les qualités d'un membre du conseil, spécialement du temps qu'il demande. Est-ce qu'il y a une question ou un commentaire? Inalia Abdul Rahim. Merci Olivier, c'est Inalia Abdul Rahim. J'ai une question par rapport à quelque chose qu'a mentionné Steve Crocker. Je ne me rappelle pas si ça a été la réunion à LAC. C'est lié avec la peculiarité des membres du conseil qui nous demandent de faire une divulgation. ICANN a une équipe d'orientation, mais il y a probablement un besoin de le faire et je voudrais vous entendre combien de temps le temps d'un membre de directoire serait dédié à cela. Steve Crocker, pour répondre, je voudrais répondre brièvement, mais aussi je voudrais que mes collègues du conseil en parlent. Il n'y a pas de besoin formel ou de nécessité formelle, même si on veut le faire dans le passé, quand l'ICANN était moins solide et qu'il y avait moins de personnes, les membres du conseil devaient participer à cela et à d'autres fonctions. Un état où je pense que c'est élémentaire, il y avait beaucoup de talents et d'habilités qui se réunissaient dans le conseil. C'était important que les membres du conseil participent dans la divulgation, mais une activité additionnelle qui est optionnelle de la partie de l'organisation et du membre du conseil. Je voudrais demander à mes collègues, je voudrais commencer avec Oker et après Ray et Bruce pour les parler de cela aussi. Oui, est-ce que vous avez des commentaires? Oui, juste un. Ici. On vient de dire que c'est vraiment travailler dehors du conseil. C'est vraiment travail d'un membre du conseil. C'est important pour les membres du conseil de connaître ce qui se passe dehors le royaume des réunions d'ICANN. C'est aussi important que le membre du conseil ne se mette pas du point de vue du personnel. Il faut participer dans les activités. Alors, dans quelques opportunités, il y a des associations que Steve a mentionné qui est important de maintenir. Ce qui est plus et plus important pour les membres du conseil, où ils participent, ils doivent être actifs et pas nécessairement dans des réunions de panneaux et vraiment quels sont les objectifs des organisations où ils assistent. Ce n'est pas une demande pour les membres du conseil d'assister aux réunions en dehors de l'environnement de l'ICANN, mais ce serait utile. Merci.
Merci beaucoup. Dit Olivier Crépin-Leblanc. Sylvia, je crois que vous avez mentionné. Il y a plusieurs personnes qui veulent poser des questions. Alors, est-ce qu'un membre du conseil veut reprendre la parole? Chérélie propose qu'on continue à donner la parole aux membres du conseil. Rinalia, vous avez posé une question très intéressante. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce que signifiait la sensibilisation. Et donc, je pense que à ce point-là, nous interprétons tout cela. Il y a une tendance à avoir des gens très, très talentueux dans les équipes d'ICANN qui font très bien leur travail. Mais nous, les membres du conseil, nous ne pouvons pas rester dans une espèce de bulle. Nous devons être informés en permanence. Nous devons savoir quelle est l'opinion de la communauté, qu'est-ce qui se passe au sein de la communauté pour pouvoir donner les meilleurs conseils et parvenir aux meilleures décisions, être pratique dans notre travail. À cause des problèmes de conflit, il faut équilibrer cela avec une impartialité complète. Mais c'est très important pour nous d'être informés. Et des fois, c'est tout simple. Et si vous êtes à Buenos Aires, vous allez réunir quelques personnes avant une réunion importante d'ICANN, leur demander qu'ils vous racontent ce qui s'est passé dans la région, la même chose à Montevideo, et la déclaration de Montevideo, voir un petit peu ce qui se passe dans le monde en général. C'est comme ça que la sensibilisation se fait. C'est comme ça qu'on travaille avec les gens les plus talentueux des équipes d'ICANN que l'on peut contacter. Il faut rester donc en contact avec le bas, toujours savoir ce qui se passe au niveau de la communauté, c'est très important. Merci Olga. Et Chris est aussi sur notre appel, et dit Steve Kroka, et demande s'il veut prendre la parole. Non, merci, c'est bon. Ok, très bien, merci Steve. Et donc on reprend notre queue. Dans la queue, on a Alain Greenberg et ensuite Sharon Langdonor. Alain, vous avez la parole. Merci. Ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. J'ai entendu et j'ai participé à plusieurs discussions de ce type. Je veux faire des compliments aux membres du conseil pour ce qu'ils ont dit. Et pour ce... C'est une nouvelle version de ce qu'on attend des membres du conseil. Et je veux les remercier pour leur participation. J'ai trouvé que le commentaire d'Olga était vraiment bon. L'équilibre entre le fait de travailler au nom d'une organisation et tenir compte des individus aussi, hein, et savoir et rester en contact avec la communauté, c'est quelque chose qui me paraît très important. Merci. Merci beaucoup, Alain. Maintenant, nous avons Charles Langdonor. Charles, vous avez la parole. Merci, Olivier. Roberto, qui est le président du comité d'évaluation, est aussi dans la queue, donc peut-être qu'on peut lui donner la parole. Cheryl dit, Olivier, j'ai du mal à vous comprendre. Bien, Cheryl dit, est-ce que maintenant ça va mieux? Oui, ça va mieux. Ok. Olivier, donc Cheryl reprend la parole. Comme Roberto est aussi dans la queue, voilà ce que je voulais dire, et comme il est le président du comité d'évaluation des membres du conseil, je vais lui donner la parole. Je vais le laisser prendre la parole avant moi. Ok, d'accord, parfait. Roberto, vous avez la parole donc, dit Olivier. Roberto, on ne vous entend pas. Est-ce que vous êtes en muet? Roberto, on ne vous entend pas. Est-ce que vous êtes en muet? Peut-être que... On va rendre la parole à Cheryl. Je crois que... Roberto... peut essayer de voir avec les équipes ICANN pour voir si on résout ce problème. Merci, merci Olivier et Cheryl Langdonor. Bien, donc, ma question est plutôt destinée à Bruce Tonkin. Donc, parce qu'il me semble... En tout cas, j'ai conscience qu'on a eu seulement une expérience. On a quelqu'un qui est représenté comme personne sélectionnée par notre... qui va être sélectionnée par notre organisation d'ICANN pour être pour siéger au conseil d'ICANN. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Et je me demande, comment est-ce que, en tant que communauté, comment est-ce que nous savons et comment est-ce que ALAC peut savoir, hein, le rôle que va jouer ce membre dans le futur. Est-ce que c'est un acteur important dans les membres, pour les membres, pour le conseil, hein? Lorsque le conseil fait des révisions de ses pairs, comment est-ce que cette information va revenir à l'électorat avec les considérations, bien sûr, de courtoisie et de confidentialité nécessaire, mais nous devons savoir tout cela au niveau d'être large. Donc j'ai l'impression que le conseil fait des révisions de ses pairs et je voudrais savoir si le conseil continue à le faire en tout cas et si la personne qui va être élue comme représentant d'ALAC sera et passera par ce type donc d'évaluation. Oui, dit Bruce Tonkin. Je vais vous donner une explication de ce processus. Vous savez que en tant que président du comité de nomination, nous avons un processus pour évaluer les membres du conseil. Nous avons créé ce processus il y a un an pour le comité de nomination qui demandait donc d'avoir une opinion à donner sur les membres du conseil et on voulait avoir une structure pour savoir comment ça, pour organiser cela. Et on nous a demandé notre opinion, donc nous avons fait un processus de révision complet pour le comité de nomination 2014. Et nous avons commencé ce processus et nous sommes mis d'accord pour le mettre à la disposition des autres organisations de soutien et des autres comités consultatifs. Et donc cette année, nous avons révisé 4 membres du conseil, Sébastien compris. Et ce processus a pris plus de temps que prévu. Nous avons sélectionné les évaluateurs. Nous avons et fait l'évaluation des membres du conseil, des membres du conseil qui ont été membres du comité ou de différents comités et des équipes qui ont soutenu un comité ou participé dans un comité. Donc quelqu'un qui a été le président d'un groupe dans lequel se trouvent les conseils, membres du conseil, etc. Donc nous avons fait cela pour que chaque membre du conseil, Sébastien compris, soit donc évalué. Cette année, nous avons donné 3 options à chaque membre du conseil. Le membre du conseil pouvait choisir de ne pas participer à ce rapport complet, ou le membre du conseil pouvait soumettre sa propre réponse à ce rapport de révision complète, ou le membre du conseil pouvait simplement demander à ce que ce rapport soit retransmis. Dans le cas de Sébastien, je crois que le processus n'est pas complet. Et on ne sait pas encore si ce rapport va être donc expédié. Je ne sais pas si ce rapport est expédié ou pas.
Olivier, c'est très important, c'est un outil très important. Je vais l'inclure dans les commentaires. Je veux être claire. Dans l'industrie, à LAC, et les 5 RALO devraient retenir un vote. Ils doivent être conscients et ne pas avoir accès. Oui, ils doivent avoir confiance. Parce que les membres du conseil ont demandé de ne pas l'être. Si ce n'est pas le cas, je voudrais être clair. Merci. Merci, Cheryl. Dave, quelques commentaires sur cela? Bruce, je n'ai pas reçu une réponse de Sébastien personnellement demandant de ne pas émettre un rapport. Sébastien m'a dit qu'il voudrait chercher un appel avec l'organisation d'évaluation. Et je crois qu'il l'a fait. Et je pense qu'il considère la gestion. Il faudrait confirmer le statut. Merci, Bruce. Je ne peux pas confirmer. On va continuer par email aujourd'hui ou dans la semaine. Je suis sûre que c'est la première ronde. On va continuer avec les questions pour l'instant. Tout le monde qui est dans l'appel, je vois qu'il y a beaucoup de gens dans l'appel. C'est de plus en plus populaire. Une note qui vient de Roberto Gaetano, puisqu'il a eu quelques problèmes techniques qu'il n'a pas pu résoudre, mais pour le registre et pour ceux qui ne sont pas dans le chat Adobe, Roberto vient de mentionner un petit commentaire. Je crois que membre du conseil peut en général avoir accès à l'information qui est confidentielle et doit s'engager à cette confidentialité. Il continue à dire la gestion correcte pour l'information, l'accès seulement dans une base nécessaire, savoir, est lié avec le conflit d'intérêts, puisque l'information peut être utilisée pour des fins personnelles, des buts personnels. Olivier me demande sur la confidentialité. L'accès à l'information qui est confidentielle, l'engagement des membres du conseil à la confidentialité sur l'accès seulement sur une base nécessaire de savoir par rapport à une certaine information. Olivier, les membres du conseil, basiquement, ont accès à toute information qui est nécessaire par rapport à la confidentialité. Typiquement, nous avons une liste de courriers du conseil. On partage dans cette liste les connaissances générales par rapport aux réunions du conseil. Les questions sont publiées et les documents sont publiés. Mais les membres du conseil disent que cette information, avant d'être publiée, il faut la corriger ou travailler dans certains aspects. On peut demander aux membres du conseil de ne pas publier l'information, mais d'attendre jusqu'à ce que le matériel soit publié officiellement dans le site Internet. Olivier est un membre du groupe. Par rapport à l'information particulière, il faut chercher si c'est public. Si c'est le cas, je vous envoie les liens. Si ce n'est pas le cas, je demande s'il faut la publier ou s'il faut donner une raison pour laquelle ce n'est pas public. On parle des matériaux qui sont publiés après la publication, etc. J'ai dans la queue. Merci Olivier. Par rapport au deuxième commentaire de Roberto, c'est-à-dire si l'information peut être utilisée pour des buts personnels, et cela est lié au commentaire qu'a fait Bruce. Les membres du conseil, pour utiliser une phrase locale, ne devraient pas parler comme s'ils sortaient de l'école par rapport à certaines informations. Ils ne devraient pas prendre l'information qui est confiée à la confidentielle. C'est très très important que les membres du conseil parlent du matériel, ils peuvent exprimer un certain degré d'opinion, mais à un moment donné, l'information que les membres du conseil peuvent ne pas être d'accord, à un moment, il faut émettre une opinion du conseil parce que c'est l'opinion du conseil par rapport aux décisions qui ont un groupe de bénéfices de l'organisation. Il faut considérer cela quand on parle de l'information. Quand on parle d'information, de bavard pendant des réunions, de dîners, c'est le cas quand on est plus lié dans une compagnie, dans le conseil, etc. Les nouveaux GTLD, les demandes pour les membres de la communauté doivent avoir accès aux compagnies publiques qui publient de l'information sur la bourse. Ils ne peuvent pas donner d'informations privilégiées aux membres de l'industrie particulière. Cela est lié à un groupe des aspects. afin que les membres du conseil ne puissent pas lier quelques points d'information. Merci. Nous avons arrivé à 55 minutes de notre conversation. Je suis très contente qu'il y ait eu tant de compromis, tant de conversations. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions additionnelles pour Steve ou pour les autres membres du conseil? Je ne vois aucune main. J'estime alors qu'il n'y a rien de plus. Le prochain pas, c'est l'élection. Je voudrais demander à Tijani, qui est dans l'appel. Tijani, est-ce que vous voulez dire où nous irons maintenant? Tijani est notre... est le président du comité de processus de sélection du conseil, des membres du conseil. Il va nous indiquer le prochain pas. Tijani, vous avez la parole. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, on vous entend. Merci. Oui, le prochain pas sera la première ronde de sélection le 16 mars. Il y aura l'objectif de réduire la quantité de candidats de 5 à 3. On va éliminer 2 candidats. Après, la deuxième ronde aura lieu à Singapour. Nous aurons le vote samedi, c'est dimanche. Si nous pouvons avoir 1 de 3 candidats, c'est-à-dire plus de 50% des votes émettés, on déclarera le gagnant ou le vainqueur. Si nous n'obtenons pas ce pourcentage, il y aura une autre ronde de vote le même jour et nous espérons obtenir une majorité des votes. Merci beaucoup, Tijani. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Le directeur du conseil, nous avons beaucoup à faire. Nous savons maintenant qu'est-ce qu'il faut avoir pour être le conseil. Membre du conseil, je voudrais remercier Steve et tous les autres membres du conseil que je n'ai pas mentionnés, mais qui ont été dans l'appel, qui ont assisté. Nous irons aux élections maintenant. Bonjour, bonsoir et bonne nuit à tout le monde. Au revoir, Olivier. Merci à tous. Très bon appel, merci.